Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Depuis plusieurs émissions, nous nous demandons quelle est la place du chrétien dans la société et quelle influence peut-il y exercer.
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons compris que le chrétien peut jouer un rôle de bâtisseur de paix. Mais quel va être aujourd'hui notre sujet de discussion?
Nous allons parler de l'intégrité et de la nécessité d'être des hommes et des femmes droits dans un monde où la malhonnêteté et la corruption sont trop présentes.
Pouvez-vous commencer par définir ce qu'est l'intégrité?
Oui, selon les dictionnaires, l'intégrité englobe des qualités telles que l'honnêteté et l'incorruptibilité. De plus, un homme intègre est constant. Il demeure honnête et droit, quelle que soit la situation à laquelle il est confronté, et pas seulement uniquement dans certains cas de figure. Une personne qui, par exemple, montre un bon témoignage à l'Église, mais qui, dans l'exercice de son métier, adopte toutes sortes de pratiques malhonnêtes, n'est en réalité pas du tout intègre. Écoutons la lecture de quelques proverbes bibliques qui parlent de l'homme intègre.
Livre des Proverbes, chapitre 11, verset 20. L'Éternel a horreur de ceux qui ont le cœur tortueux, mais il aime ceux qui se conduisent de façon intègre. Proverbes, chapitre 19, verset 1 et chapitre 28, verset 6. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un insensé aux lèvres menteuses. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chemins tortueux. Proverbes, chapitre 28, verset 18. Celui qui mène une vie intègre trouvera le salut. Mais l'homme corrompu qui suit deux chemins à la fois tombera dans l'un ou l'autre.
À travers ces versets, nous comprenons l'importance pour l'homme de faire preuve d'une conduite intègre afin d'être agréé par Dieu. Robert, vous avez dit tout à l'heure que celui qui est droit est un homme honnête. Parlez-nous davantage de l'honnêteté et de ce que vous entendez par là.
L'honnêteté implique un désir profond de dire la vérité et une aversion contre tout ce qui est mensonger. Il peut être facile de mentir à une personne afin d'obtenir d'elle des avantages. Il peut être facile aussi de couvrir ses erreurs et ses fautes en ayant recours à des paroles mensongères afin de s'éviter quelques ennuis. Malheureusement, la malhonnêteté est une pratique courante dans le monde du commerce ou l'exercice d'un métier. Mentir peut être facile pour gagner des clients ou pour cacher des problèmes. Le chrétien, par contre, selon le commandement de l'Éternel, doit rechercher la vérité en toute situation.
Mais si nous disons toujours la vérité, les gens ne risquent-ils de profiter de notre honnêteté?
Oui, ce risque existe, il est vrai. Mais il ne justifie pas la pratique du mensonge. L'Éternel nous demande de nous conduire avec justice et droiture. Il nous invite à demeurer intègres, même si à cause de notre bonne conduite, nous avons un prix à payer. Le chrétien doit se distinguer du reste des hommes. Cependant, demeurer un homme ou une femme intègre peut aussi devenir un avantage. Si nous sommes reconnus pour notre honnêteté, pour notre intégrité dans notre vie, les gens apprendront à nous faire confiance. Ils sauront que nous ne les trompons pas, que nous ne désirons ni les exploiter, ni profiter d'eux.
Merci Robert. Vous avez évoqué le mensonge, mais quels sont les autres éléments qui pourraient aussi ternir notre réputation d'intégrité?
Il s'en trouve plusieurs. D'abord, sommes-nous des personnes dont la parole est digne de confiance? Autrement dit, promettons-nous aux gens ce que nous n'avons pas vraiment l'intention d'accomplir ou même la possibilité d'accomplir? Il est possible de faire des promesses un peu à la légère, simplement pour plaire et sans vraiment avoir l'intention de les honorer. Une telle conduite manque d'intégrité et nous risquons d'en subir les conséquences si ceux qui nous côtoient découvrent que nous ne sommes pas vraiment dignes de confiance. Bien sûr, Il arrive parfois, à cause d'événements exceptionnels que nous ne maîtrisons pas, de ne pas pouvoir réaliser une promesse. Cependant, si constamment nous n'honorons pas notre parole, nous faisons alors preuve d'un manque d'intégrité et les uns et les autres peuvent douter de nos véritables intentions. Si nous nous engageons à faire des promesses, nous devons mettre tout en œuvre pour tenir nos engagements.
Ainsi, tous ceux qui demeurent intègres peuvent être dignes de confiance. Mais je pense à une autre question touchant notre sujet, celle des pots de vin.
Ah oui, il est vrai que dans de nombreux pays, la pratique d'offrir, d'accepter ou bien d'exiger des pots de vin est très courante. Dans certaines cultures, elle est même considérée comme normale.
Mais la Bible en parle-t-elle ?
Oui, citons à titre d'exemple le prophète Ésaïe au chapitre 1 et au verset 23 et 24. Tes chefs sont des rebelles, complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et sont avides de présents. Ils ne défendent pas les droits de l'orphelin. La cause de la veuve jamais ne leur parvient. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le puissant d'Israël, vous déclare ceci. « Malheur à vous, car je me débarrasserai de vous, mes adversaires. Je vous ferai payer, ô vous, mes ennemis. »
Le prophète dénonce très clairement la corruption sous toutes ses formes, incluant l'usage des cadeaux et des pots de vin. Dieu considère les personnes ayant de tels recours comme ses ennemis. Pourquoi ?
Parce que, le plus souvent, le fait d'offrir ou d'exiger des pots de vin est une façon de contourner les voies normales de la justice. Par ce biais, on désire influencer une personne en sa faveur. Peut-être aux dépens d'une autre qui ne dispose pas des moyens de faire appel à la justice. De telles pratiques entravent la justice. Elles privilégient les riches et privent les pauvres de leurs droits. Or, Dieu est juste et il désire que la justice règne sur la terre. La pratique de pots de vin porte atteinte à la justice et offense le Seigneur qui est juge de tous.
Ainsi, il faut refuser tout pot de vin si l'on en propose. Et il ne faut pas non plus en exiger un de quiconque pour un service rendu.
En effet, c'est ce que la Bible nous enseigne.
Mais que faire lorsque l'on a une démarche à accomplir et que l'on sait que notre interlocuteur attend de nous un pot de vin afin de faire bouger les choses? Si dans un tel contexte nous n'en offrons pas, il est probable que notre cause n'aboutira pas.
Et voilà pourquoi le système des pots de vin est injuste. Celui qui veut demeurer intègre ou celui qui ne dispose pas de moyens pour s'offrir des pots de vin sont privés de leurs droits. Que faire alors dans un tel contexte? Chaque individu doit user de sagesse et décider quelle démarche prendre selon sa situation. Toutefois, je pense que, dans la mesure du possible, il est préférable de ne pas encourager la pratique des pots de vin. Et le fait de refuser d'en offrir est un moyen d'exprimer sa position devant une telle pratique injuste. De plus, Dieu honore celui qui subit une injustice parce qu'il pratique le bien ou parce qu'il refuse de faire le mal. Citons pour conclure l'enseignement de l'apôtre Pierre. Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Nous avons appris que le fruit de l'esprit dépeint le caractère de Jésus-Christ et qu'il présente les qualités divines auxquelles tout chrétien doit aspirer. Notre invité Étienne va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Aujourd'hui, nous allons parler de la troisième qualité mentionnée par Paul. Il s'agit de la paix. Et je cède tout de suite la parole à Étienne.
Merci Yann pour cette introduction et bonjour à tous. L'Esprit de Dieu produit la paix. Il l'a fait resplendir dans la vie de Jésus et il peut aussi la répandre dans vos vies. Mais de quelle paix s'agit-il? Car le mot paix peut avoir plusieurs significations. Voici d'ailleurs quelques définitions données par le dictionnaire Larousse. La paix peut être l'état de pays, de nations qui ne sont pas en guerre. La paix peut aussi être l'état d'un groupe de personnes qui ne sont pas en querelle ou en conflit. Et la paix peut être encore l'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un, ou l'état de quelqu'un qui jouit du calme intérieur, d'une tranquillité d'âme. La paix peut même être l'absence d'agitation ou de bruit dans un lieu. Mais alors, laquelle de ces définitions faut-il choisir en parlant de la paix qui est le fruit de l'œuvre de l'Esprit ? Je pencherai pour la troisième définition donnée dans cette liste, autrement dit, la paix qui évoque la tranquillité d'âme, le calme intérieur. Pourquoi ce choix de définition ? Écoutons les versets suivants pour mieux comprendre. Les deux textes que nous allons lire sont tirés de l'Évangile de Jean, et plus particulièrement du discours que Jésus donna à ses disciples la nuit de son arrestation, la veille de son procès, qui le conduisit à mourir sur une croix. Jésus a donc déclaré « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Et puis, quelques instants plus tard, il a répété « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. » Jésus savait qu'il allait passer une journée effroyable, une journée marquée par une suite d'événements éprouvants à l'extrême, une journée qui allait s'achever avec sa mort sur la croix. Et pourtant, malgré tout, le Seigneur parlait de paix. Il leur parlait de la paix qu'il donne. Malgré tous les événements qui se déroulaient, il possédait une tranquillité d'âme, un calme intérieur. Toutes les afflictions du monde, toutes les douleurs subies ne parvenaient pas à perturber son cœur ni à troubler ses pensées. Bien au contraire, il demeurait en paix. Jésus savait aussi que ses disciples allaient vivre des moments difficiles et que ces épreuves avaient le pouvoir de les troubler, d'engendrer en eux peur et angoisse. C'est pour cette raison que Jésus voulait leur donner sa paix, la paix qui rayonnait en lui, afin qu'ils puissent faire face, eux aussi, aux événements, le cœur tranquille. Nous développerons ces pensées la prochaine fois, mais nous avons compris quelle est cette paix qui vient de l'Esprit.
Merci Étienne. Nous savons qu'en raison du contexte difficile dans lequel ils vivent, beaucoup de nos amis auditeurs ont besoin de connaître cette paix que seul l'Esprit a le pouvoir de donner afin de pouvoir faire face aux événements turbulents qui les touchent. Et nous prions pour eux.
Sur ce, nous vous disons au revoir et à la prochaine.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.